Loup. À la une, les discussions entre la frappe et le gouvernement qui devrait reprendre lundi. Manuel Valls à Tahiti d'ici le mois de mai et une soirée exceptionnelle au FIFO avec un acteur américain. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
À la une ce vendredi, on reparle de la frappe.
Oui, souvenez-vous, la fédération promettait un mardi noir pour la rentrée et avait finalement levé son préavis de grève. Moëtta Ibroversson est partie à Paris et a confié le dossier à sa ministre de la fonction publique. Et depuis, eh bien, pas de rencontre, mais des calculs. Et Vanina Krolla craint que ça ne plaise pas beaucoup aux représentants de la frappe, selon nos confrères de Tahiti Info. Ces chiffres de valorisation du salaire de la catégorie D seront présentés lundi au Conseil supérieur de la fonction publique. Mais déjà, la ministre a expliqué à nos confrères qu'il n'était pas possible de satisfaire les demandes du syndicat, trop cher pour le pays. Alors qu'en pense Jean-Paul Ourima de cette annonce ? Eh bien, pas grand-chose pour l'instant, on l'écoute.
Le fait est qu'elle n'a pas du tout participé aux négociations du deuxième préavis de grève. Il m'est difficile de porter une quelconque valeur sur ce qu'elle déclare. Mais bon, dans la mesure où le président n'est pas sur le territoire, je me vois mal, avec toute notre délégation, entamer des négociations avec la ministre de la fonction publique.
Alors bien sûr, le syndicat a reçu les fameux tableaux du gouvernement et ils sont à l'étude. Et comme le craignait la ministre, ces propositions ne sont pas à la hauteur des attentes. Mais les représentants de la frappe qui seront présents lundi ont pour consigne de continuer à discuter et d'analyser les positions des uns et des autres. Ensuite, les propositions des uns et des autres. Ensuite, on avisera, dit Jean-Paul Ourima. Le secrétaire général s'agace aussi un peu de la façon de faire du gouvernement.
Nous menons des négociations dans le cadre d'un préavis de grève, comme le prévoit le Code du travail. Et là, alors, ils viennent interférer les autres syndicats. Je ne sais même pas s'ils ont des propositions. S'ils veulent mélanger les pinceaux, à un moment donné, on va se retirer de la négociation. Il faut que le gouvernement prenne conscience que c'est grâce à l'action de la frappe que les autres syndicats ont été interpellés, ils se réveillent. Non, je suis désolé. S'ils ont des propositions sérieuses, qu'ils mettent cela dans le cadre d'un préavis de grève et puis basta.
Et Jean-Paul Ourima qui rappelle que le préavis de grève de la frappe peut être réactivé à tout moment. On a le temps, dit-il, le temps surtout d'attendre que le président du pays rentre sur le territoire, ce qui est prévu le 23 janvier. Et en attendant, on pourra avoir une idée de l'ambiance lundi après le Conseil supérieur de la fonction publique.
Manuel Valls est attendu au Fénois d'ici le mois de mai.
C'est l'annonce faite par le président du pays à notre partenaire Outre-mer 360. Donc vous le savez, on vient d'en parler, Moëtta Ibroversson est en mission à Paris actuellement et il a rencontré le ministre des Outre-mer hier, enfin cette nuit heure de Tahiti. Au menu des discussions notamment l'organisation du comité interministériel des Outre-mer déjà annoncé par le prédécesseur de Manuel Valls et donc confirmé la confirmation aussi d'une autre réunion de ce même comité dédiée cette fois aux collectivités du Pacifique. Ces deux réunions sont prévues au début de cette année et à la sortie de la rencontre avec Manuel Valls, Moëtta Ibroversson était au micro d'Outre-mer 360.
Plutôt positif, on a en face de nous quelqu'un qui a été Premier ministre qui aujourd'hui, dans l'ordre protocolaire, est numéro 3, ministre d'État. Donc pour l'instant, on est en tout cas satisfait de la position des Outre-mer dans l'organisation du gouvernement. Pour moi, en tant que chef de l'exécutif polynésien, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une stabilité dans les interlocuteurs qu'on a ici à Paris, parce que à chaque fois, s'il faut revenir, expliquer, reprendre langue, revoir l'état d'avancement des dossiers, c'est très compliqué.
C'est très compliqué, vous l'avez deviné, le son a été coupé de manière un peu trop sèche. Et donc, Moëtta Ibroversson espère que ce gouvernement restera plus longtemps que le précédent, aussi pour laisser le temps au nouveau ministre des Outre-mer de venir en Polynésie.
J'attends la visite du ministre, puisqu'il a prévu de passer en Polynésie avant le mois de mai. On attend sa visite. Nous avons plusieurs sujets. Nous avons celui des conventions qui nous lient à l'État, le contrat de développement et de transition, les conventions santé, le renouvellement de la convention décennale sur l'éducation. Enfin voilà, on a tout un tas de sujets. La participation de l'État à la politique de solidarité.
Et des sujets plus régionaux comme les Jeux du Pacifique de 2027, un rendez-vous qu'il ne faudra pas rater.
On ouvre notre page justice avec cette affaire d'indivision qui n'a pas fini devant le tribunal foncier, mais le tribunal correctionnel.
Les deux hommes étaient en détention provisoire depuis 2 jours. Lorsqu'ils comparaissent à la barre, le plus âgé doit se justifier pour des menaces de mort et des violences avec armes, et le second pour violence également et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, Valdemar Delage.
Oui, il s'agit d'un oncle et de son neveu. Ils partagent une haine viscérale que chacun voue à l'autre. Ils partagent une mauvaise réputation dans leur quartier de Mahina. Ils partagent surtout leur habitation. Le plus jeune y habite depuis des années, mais en 2020, il a vu débarquer son aîné venu des Tuamotu s'installer dans cette maison dont il est également propriétaire. Et rapidement, la cohabitation tourne au cauchemar, insultes régulières, menaces, et le 12 janvier, une énième dispute éclate entre les deux hommes. Dans la salle d'audience hier, les juges ont tenté de démêler le vrai du faux. Chacun accuse l'autre d'avoir commencé, minimise sa responsabilité. D'après des témoins, le plus âgé a rapidement sorti un couteau. Le mis en cause reconnaît s'être saisi de cette arme, mais pour se défendre, dit après avoir reçu un coup de pierre et des coups de râteau. Sans parvenir à démêler le vrai du faux, mais en jugeant que les violences avec armes étaient bel et bien caractérisées, les juges ont condamné les deux hommes à la même peine, 6 mois ferme avec maintien en détention, Lucie.
Et à noter que le plus jeune restera plus longtemps à Nootania puisqu'un précédent sursis de 5 mois a été révoqué.
Une petite révolution en démonstration ce matin à Taoné.
Oui, et plus précisément au centre d'appel du 15 et du CTA qui partagent les mêmes locaux au sein de l'hôpital. Les coordinateurs du SAMU et des pompiers présentaient ce matin aux élus et aux médias un dispositif qui doit les aider à sauver des vies. Son nom AML pour Advanced Mobile Location. On vous en a déjà parlé il y a quelques jours. Il s'agit d'un système de géolocalisation très précis. Il permet à une personne en détresse de transmettre ses coordonnées automatiquement au secours quand elle contacte le 15, le 18 ou même le 16 pour les secours en mer. Un système déjà utilisé depuis plusieurs années en métropole et attendu depuis longtemps par les coordinateurs du SAMU.
En situation d'urgence, le point le plus important, c'est savoir où on va et pourquoi on va. Pourquoi on va, les patients sont capables de l'expliquer. Où on va, le lieu exact, c'est souvent compliqué. Et chaque minute de perdu à chercher une adresse ou un endroit, c'est des vies perdues. Donc l'idée, c'est que dès qu'on est en situation d'urgence, nous, on ait la capacité d'avoir un point GPS exact de position de la personne qui appelle, sans que lui, il ait rien à faire.
Le chef de service du SAMU en Polynésie, le docteur Bertrand Rémaudière, explique que son service utilise déjà quotidiennement cet AML mis en place le 1er janvier dernier. Et de l'autre côté de la salle du Taoné, le centre de traitement des appels ou CTA des pompiers, qui gère 4 grandes communes de Tahiti, salue eux aussi cette avancée et explique que l'arrivée de cette technologie pourrait même aider à convaincre les autres communes du pays de rejoindre ce centre, toujours porté financièrement par les mairies de Harou et Epiré. On écoute le sergent Mathias Kenyet, adjoint de chef de salle du CTA.
Déjà, l'efficacité d'un CTA avec la professionnalisation du traitement des alertes, déjà, on passait un cap. Et aujourd'hui, avec cette géolocalisation, on passe encore un cap qui est formidable pour la Polynésie, pour le secours.
Et voilà, et sachez qu'au passage, en cas de problème et d'appel des secours, vous n'aurez rien à faire pour utiliser ce dispositif. Votre portable Android transmet automatiquement les données de géolocalisation au centre d'appel. Et pour les iPhones, les discussions avec appel sont en cours. L'État et le pays espèrent les voir aboutir d'ici quelques semaines.
On part en voyage dans ce journal avec la compagnie du Ponant.
Oui, déjà propriétaire du Paul Gauguin, elle est devenue l'actionnaire principal d'Aqua Expedition, cette société basée à Singapour et spécialisée dans les croisières de très grand luxe. Elle opère aujourd'hui 5 navires sur des fleuves comme l'Amazone ou le Mékong, mais aussi en Indonésie et aux Galapagos. De quoi renforcer donc la présence de Ponant dans la région. Le directeur commercial de la compagnie avait d'ailleurs déclaré sur Radio 1 vouloir développer leur offre en Polynésie française et plus largement dans le Pacifique.
Et cette fois, direction les Sables d'Olonne où parmi les vainqueurs se trouve un Polynésien.
Oui, bien sûr, vous le savez, c'est bien Charlie Dalin qui a remporté la course, mais si le skipper navigue seul, c'est toute une équipe qui l'accompagne et travaille sur le bateau. Et derrière le vainqueur du Vendée Globe se trouve un Polynésien, Guillaume Combescure, un homme qui est né et a grandi à Tahiti et souvent allé au yacht club de Haroué. Il est aujourd'hui le directeur technique du projet de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. Polynésie la Première raconte qu'il a été l'un des premiers à monter sur le bateau pour féliciter Charlie Dalin. Le skipper a évidemment eu un mot pour son équipe, les meilleurs du monde, a-t-il dit. Cela faisait 3 ans que l'équipe préparait la course, explique Polynésie la Première.
Culture pour terminer avec le FIFO. On vous l'a dit hier, le festival commence le 31 janvier et au programme, une soirée exceptionnelle nous attend.
Oui, la 22e édition avec encore une fois une programmation riche et variée. Et cette soirée exceptionnelle donc avec en avant-première le film Holding with Brando. Ce biopic américain est centré sur la période 1969-1974 quand l'acteur Marlon Brando achète Tetiaroa avec l'idée d'y faire une retraite écologique. Et c'est une cinquantaine de Polynésiens qui ont participé au tournage du film, devant et derrière la caméra.
C'est une très très grande fierté, donc évidemment j'étais tout à fait excitée à l'idée d'intégrer ce projet à la programmation du FIFO, non pas pour parler de Brando ou d'une production hollywoodienne, mais pour célébrer la filière locale et célébrer ces collaborations internationales qui, je pense, reflètent le professionnalisme et la qualité de nos professionnels.
Vous venez d'entendre Laura Théron, la déléguée générale du FIFO, et cette réussite qui fait aussi écho aux intentions du gouvernement, car c'est mercredi dernier qu'il a transmis son projet de loi du pays pour créer des régimes favorables à toutes les productions qui viendraient aux Fénois, l'idée étant bien sûr d'encourager les tournages en Polynésie. Voilà, cette soirée cinéma, ce sera donc le dimanche 2 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et si la soirée est exceptionnelle, car c'est parce que l'acteur principal, Billy Zane, qui interprète Brando dans ce film, sera présent à cette avant-première à Tahiti et peut-être même le réalisateur Bill Fishman. Voilà, et pour réserver sa place, il faudra aller sur le site du FIFO. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie. Maintenant, on passe à la météo sur Radio.